Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Plus de 11h sur votre radio locale sur Radion. Un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Page d'histoire locale aujourd'hui, puisque ce samedi 6 juin 2026 et samedi prochain, nous marquerons à notre manière le 90e anniversaire du Front populaire dans l'Yonne, alors département essentiellement rural qui compte un peu plus de 270 000 habitants. Il s'agit de la rediffusion d'une émission de 2018 avec trois historiens membres de l'association Adi Amos 89, Association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux. En novembre 2016, Adi Amos 89 organisait à Auxerre un colloque sur le Front populaire dans l'Yonne. Suite à cet événement, l'association publiait les actes de ce colloque, toujours disponibles à la vente sur le site internet de Adi Amos 89. Le Front populaire 1936, coalition de gauche réunissant socialistes, radicaux et communistes, s'explique aussi par un contexte social européen et mondial. Il faut rappeler la crise de 1929 et la montée des périls, notamment en Italie et en Allemagne. Revisitons donc la chronologie des événements grâce aux trois invités de notre émission, Denis Martin, Frédéric Gand et Sophie Barré, qui ouvrent notre échange en revenant sur les conséquences de la Grande Dépression de 1929 venue d'outre-Atlantique.
Oui, cette crise, comme vous le disiez, a commencé en 29 aux États-Unis. Elle est venue plus tardivement en Europe, dans les années 30. La France a vraiment été touchée en 1931. Un peu moins que ses voisins, en particulier moins que l'Allemagne, mais elle est quand même présente à ce moment-là. Donc le taux de chômage augmente, est très important chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Ce sont elles les premières touchées. Alors, pas dans l'Yonne, enfin moins dans l'Yonne, parce qu'en fait, dans l'Yonne, les entreprises qui vont être touchées, ce sont des entreprises qui emploient plus d'hommes. Mais voilà, un contexte social difficile avec une hausse du chômage, avec une baisse du pouvoir d'achat pour la plupart des populations, en particulier les fonctionnaires qui vont être touchés par cette crise. Et un département qui, enfin, ou même la France qui va, comment dire, un peu mieux résister que le reste de l'Europe, parce que il va y avoir un impact économique un peu qui va être, comment dire, atténué du fait que c'est un pays plus rural.
C'est le cas aussi d'ailleurs de ce département de l'Yonne à la veille du Front populaire, Frédéric Gand. Il faut imaginer notre département de l'Yonne, c'est un département qui est très rural et dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture.
Tout à fait, Yannick. L'Yonne, en 1936, totalise environ 300 000, 270 000 pour être précis, habitants, dont les deux tiers sont ruraux. Les villes sont très peu nombreuses, quelques-unes font plusieurs milliers d'habitants, il n'y a que deux grands centres urbains. Auxerre fait 24 000, Sens 18 000. Et ce département, effectivement, comme l'a dit Sophie, a été tardivement touché par la crise parce qu'il y a des très nombreuses petites exploitations artisanales, commerciales, agricoles, qui ont été, avec retard du fait de leur structure moins capitalistique que les autres, moins touchées par le problème de retrait des capitaux américains suite à la grande crise. Il n'en reste pas moins que Lyon est touchée par le marasme, des grosses difficultés dans les coûts de production, des prix qui qui baisse ou qui monte. Et donc, cette économie est un peu à la fois au ralenti et en surchauffe. C'est un peu paradoxal, mais ça s'explique parce qu'à l'époque, on n'a pas encore compris les grands mécanismes de l'économie. Et les gouvernements qui sont à l'œuvre pour essayer de lutter contre cette crise ne trouvent pas de solution. Ils voient un petit peu l'économie comme une cocotte minute qui serait en surchauffe. Ils pensent que quand la température monte, il faut baisser les salaires. C'est ce que fera Laval avec les décrets-lois en baissant les salaires de 10%, mais c'est ce que font aussi les Anglais et les Allemands, ou en baissant les taux d'intérêt pour essayer de relancer les entreprises en rendant l'argent, le loyer de l'emprunt moins cher. Et donc, en fait, Lyon, comme la France, souffre de cette situation économique et de l'impéritie, l'incapacité des gouvernements à y faire face.
Frédéric Gand, vous avez beaucoup travaillé sur les aspects démographiques liés aux grandes pertes humaines de la Première Guerre mondiale. Mmh. Lyon accuse, en tout cas, un recul de natalité lié aux conséquences. Parce qu'en fait, les paysans ont été les grandes victimes, les grands sacrifiés.
Absolument.
Des combats de 14-18.
Vous avez tout à fait raison. Il y a à peu près 11 000 morts liés à la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, devrait-on dire, dans Lyon, ce qui est un manque à gagner au niveau démographique. Ce qui est en fait le cas de nombreux départements très ruraux de France. Et Lyon, comme la France, souffre des conséquences de la Grande Guerre. Certes, nous avons gagné la guerre, mais en termes démographiques, ça nous a coûté cher.
Le Front populaire fait partie des moments fondateurs de l'histoire contemporaine de la France du XXe siècle, à la fois événement mythique inscrit au panthéon des gauches, mais aussi moment abhorré par une partie de l'opinion qui prend sa revanche sous le gouvernement de Vichy. Il est utile de comprendre comment le Front populaire est une étape historique qui participe au changement de la société française, ayant suscité des espoirs mais aussi des peurs et certains désenchantements. Ses traces restent profondes au sein de la culture nationale. C'est ce qu'écrit Jean Vigreux à l'introduction des actes du colloque « Le Front populaire dans Lyon ». En tout cas, ce 90e anniversaire du Front populaire est l'occasion de revenir sur la façon dont ces événements ont été vécus dans notre département de Lyon. Vous écoutez Radion et son émission littéraire Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous marquons un premier intermède musical et on se retrouve bien sûr juste après avec nos trois invités, Sophie Barré, Denis Martin et Frédéric Gand.
Le fouet cinglant du froid d'hiver qui nous mordait la joue, l'absence étouffée de mon père, une rose et deux choux, les draps complis avec sa mère en joignant les deux bouts, la craie sur le tableau Esther, les chemins de cailloux, le temps emporte tout. La conscience de l'univers, l'inconscience de nous. La vie qui s'était laissée faire et le goût des cachous. Les lacets qui se laissent pas faire, écorcher les genoux. Les rapporteurs et les équerres, ornicard il est où? Le temps emporte tout. Les envolées lyriques, des promesses inutiles, tous les mensonges authentiques, des serments immobiles, tout fout le camp. Le temps porte tout. Tant pis pour le temps. Nos années de nuit somnifère, nos journées de hibou. L'immobilité délétère, nos actes les plus mous. ce qui nous a rendus très fiers avant et après coup. Le mercure au chrome et l'éther, les promesses au mois d'août. Le temps emporte tout, la jeunesse qui se désaltère sans trop craindre le loup. Romantisme crépusculaire que l'aube aura dissous. Même notre peur de la guerre partira avec nous. Comme les chocs d'un vieux disquaire, le Manitou d'un Sioux. Le temps emporte tout. Tous nos actes tragicomiques, nos silences imbéciles, nos révolutions esthétiques, nos opinions faciles. Tout fout le camp. Tant pis pour le temps. La vaine illusion des prières qu'on a rouées de coups. Tout ce qu'on a fait en solitaire et qu'on garde pour nous. Des jardins extraordinaires qui poussent dans la boue. Tout ce qu'on aura pu en faire pour sertir un bijou. Le temps emporte tout.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
90e anniversaire du Front Populaire dans l'Yonne, tel est le thème de notre programme aujourd'hui à travers la rediffusion d'une émission de 2018 avec trois historiens membres de l'association Adiamos 89, association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux. Sophie Barré, Denis Martin et Frédéric Gant nous accompagnent, eux qui ont participé au colloque en novembre 2016 organisé par Adiamos 89 sur le Front populaire dans l'Yonne. La crise économique et sociale des années 30 qui sévit en France touche assez durement la Bourgogne et l'Yonne. Plus de 6% des salariés du secteur industriel dans l'Yonne, la Côte d'Or et la Nièvre sont sans emploi, alors que la Saône-et-Loire, plus industrialisée, n'en compte que 4,3%. Notre département de l'Yonne, encore très rural, qui compte 271 685 habitants, est touché de plein fouet par la crise agricole avec la chute des cours du blé qui induit un malaise profond en particulier dans le Sénonais et le Tonnerrois. Mais il faut également rappeler qu'il y a tout de même de grandes usines dans le département de l'Yonne. Deux grands pôles industriels se dessinent, notamment à Sens et Auxerre. Frédéric Gant.
L'industrie la plus classique au sens où on l'entend, c'est-à-dire les grandes usines, c'est plutôt Sens, puisqu'elle est dans la très grande périphérie de la région parisienne. On trouve des grandes usines métallurgiques comme Le Lièvre, comme Morse, comme Pont-à-Mousson, comme Fichet qui fait des coffres-forts. On trouve des tanneries, des fabriques de chaussures comme la Paronaise, qui d'ailleurs utilise plutôt un personnel féminin, c'est quand même 400 ouvrières. On a de la bonneterie, de la minoterie, des usines mécaniques, de petits assemblages. Et puis à Auxerre, on a moins de grandes structures, c'est plus dispersé, plus morcelé. C'est par exemple l'usine métallurgique de Guillet, qui fait beaucoup de machines à bois, et qui est très liée d'ailleurs à cette économie rurale dont on parlait. Beaucoup d'artisans se fournissent auprès de Guillet. On a aussi une chocolaterie qui est très connue, avec Moreau, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. On a des cartonneries comme Gagné. On a des fabriques de vêtements comme Soissons et Gemmes. Soissons, on aura peut-être aussi l'occasion d'en parler. Et puis des ocriers qui donnent un peu de travail aussi sur le Sénonais. Et puis, il ne faut pas oublier Migène, qui n'est pas un grand pôle industriel, mais qui, par sa batellerie et par son dépôt, qui est quand même important, qui fait presque 1000 cheminots, hein, c'est, on parle beaucoup des cheminots en ce moment, a quand même des ateliers d'assemblage, de mécanique, de réparation des locomotives, de fraisage. Donc, voilà, c'est l'essentiel. Pas oublier quelques industries aussi rurales, et puis, bien sûr, les industries extractives des carrières, notamment celles de Chassignelles, Ravière et Massangis, et puis peut-être de ci et là quelques industries comme les industries Lerèche à Saint-Julien-du-Chaux qui font des rasoirs, ou bien les industries comme la sucrerie de Brinon.
Alors mentionnons aussi le bûcheronnage, qui est une activité importante en pays avallonnais, enfin dans les limites du Morvan, hein,
oui,
on a des ouvriers, ouvriers du bûcheronnage, même dans le monde agricole, il y a beaucoup d'ouvriers agricoles.
Voilà,
aussi,
énormément, effectivement, ils sont très nombreux en Puisaye, dans l'Avallonnais, et c'est d'ailleurs délicat de les classer, parce qu'ils sont à la fois rattachables au monde industriel par leurs revendications, leur conscience de classe, et en même temps, ils appartiennent vraiment au monde agricole et rural.
Alors, parlons un peu des présences et des forces politiques en présence dans ce département de Lyon. Denis Martin, par exemple. Alors, quels sont les partis nationaux bien ancrés dans le paysage politique de Lyon dans ces années 34-35, avant le Front populaire?
Alors, évidemment, il y a des partis de droite et des partis de gauche, comme dans toute la France. Mais Lyon se distingue un petit peu des autres départements, puisque c'est un département qui a été très précocement républicain. La Seconde République, dès 1848, on a vu la force du Parti républicain dans ce département. On l'a vu ressurgir à la fin du Second Empire avec une présence très très forte des républicains en 1870. Et cette tradition a débouché sur ce qu'on a appelé le radicalisme, le mouvement radical. Et donc Lyon, en 1936, c'est d'abord et avant tout la chasse gardée du Parti radical socialiste. Donc les radicaux, qui sont placés sur l'échiquier politique plutôt centre-gauche, qui s'est droitisé au fil des décennies, parti de l'extrême-gauche avec Clémenceau à l'époque, et qui a dérivé vers la droite. Et en 1936, ils sont vraiment au centre de l'échiquier politique, et c'est autour d'eux que se forment les majorités au Parlement.
Alors, il y a aussi une figure radicale haute en couleur dans Lyon, et qui est à la tête du Conseil départemental de Lyon. C'est Bienvenu Martin.
Bienvenu Martin.
Qui est un vieillard quand même.
Bienvenu Martin, plus de 80 ans au moment du Front populaire, mais toujours là, toujours présent, toujours réélu sénateur. C'est lui le chef, le président du groupe radical au Sénat. Et c'est lui, effectivement, qui fait un peu la pluie et le beau temps, puisque le Sénat a un pouvoir de blocage assez important, et notamment, bon, Sophie Barré en parlera tout à l'heure, mais un pouvoir de blocage par rapport au niveau du vote des femmes qui était remarquable. À gauche, nous avons la SFIO. Alors la SFIO, c'est le Parti Socialiste, un peu mal en point au début des années 30, puisqu'il y a une scission des néo-socialistes et qui a dépouillé le Parti Socialiste de Lyon un petit peu de tous ses cadres, notamment tous les élus sont passés au nouveau Parti Socialiste de DA. Et donc les socialistes vont se remobiliser et remonter la pente grâce au Front populaire. Et puis, à gauche encore, le Parti communiste, qui est alors en 1930-36, qui est vraiment squelettique, après la désastreuse ligne politique classe contre classe, a perdu tous ses adhérents. Il reste une centaine d'adhérents dans Lyon, une dizaine de cellules. Il n'y a même plus de direction départementale, puisque c'est Dijon qui dirige le Parti communiste. Sur la droite, on a l'Alliance démocratique, qui est avec une grande figure, hein, Flandin qui est la région d'Avallon, hein, c'est sur Vézelay, le canton de Vézelay. Donc Flandin, qui était même Premier ministre, enfin, à l'époque on ne disait pas Premier ministre, on disait président du Conseil, mais il a été président du Conseil juste avant le Front Populaire, donc une grande figure politique, réélue régulièrement également, qui représente ce qu'on peut appeler la droite dans le département, une droite relativement modérée, puisque sur son extrême droite, il y a d'autres forces politiques qui poussent. Alors on est un peu étonné aujourd'hui, mais il y avait des royalistes qui étaient assez bien implantés dans le département, comme dans toute la France. D'ailleurs, les émeutes de 1934 étaient dues en partie au mouvement royaliste. Donc il y avait des royalistes qui représentaient l'extrême droite de l'époque. Et dans l'Yonne, ils ne sont pas du tout absents, ils sont même très très présents. Et ils font des meetings, ils font des manifestations, etc. Donc un paysage politique contrasté avec à peu près tout l'arc politique représenté dans le département.
Et puis Denis Martin, ce qu'il faut souligner, et ça c'est une des conséquences de cette Première Guerre mondiale, c'est qu'il y a un grand nombre d'associations d'anciens combattants que l'on consulte et dont les avis sont importants aux yeux des politiques.
Effectivement, si on sonde un peu l'opinion publique, on se rend compte que ce n'est pas tellement les partis politiques qui se font le mieux entendre. Ceux qui se font le mieux entendre, ce sont les associations d'anciens combattants. La Grande Guerre est encore relativement proche. En 1936, on n'est même pas 20 ans après la Grande Guerre. Donc, il y a des dizaines et des dizaines d'associations d'anciens combattants.
Alors, tendance de droite ou de gauche,
De droite et de gauche. Donc, effectivement, on a deux grandes associations. On a l'UNC, l'Union nationale des combattants, qui est classée très très à droite, proche de l'extrême droite. Et puis on a une association de gauche qui rassemble tous les anciens combattants qui se reconnaissent plutôt dans les socialistes et dans les radicaux.
La FNCR.
Donc très important. Par exemple, les membres du colonel de la Roque aussi.
Alors le PSC, là on est dans les ligues, effectivement, c'est aussi une association d'anciens combattants de la ROC, effectivement, donc les Croix de Feu. Donc les Croix de Feu sont très bien implantées dans Lyon également, et ils recoupent en gros les opinions politiques, c'est à peu près la même chose que l'UNC. On a du mal dans Lyon à distinguer les Croix de Feu de l'UNC, ils sont tous adhérents aux deux associations.
Oui, je trouve que ce qu'a dit Denis est extrêmement juste. On voit bien les conséquences de la Grande Guerre et on voit qu'une bonne partie du monde associatif ancien combattant se retrouve dans des actions politiques. Il ne faut pas oublier que les ligues, ce sont des ligues pratiquement paramilitaires qui, pour certaines, pas toutes bien sûr, défilent en uniforme avec leurs médailles et menacent, critiquent, vilipendent la politique du gouvernement. C'est le début de l'antiparlementarisme qui va conduire, on va en parler plus tard, à la crise du 6 février 1934 qu'a évoqué tout à l'heure, sans le préciser, Denis, c'est-à-dire un événement quasi-putschiste de prise du pouvoir en menaçant le palais Bourbon.
Alors c'est un événement très parisien, le 6 février 1934.
Tout à fait.
Il n'y a pas de répercussions en province.
Non, il n'y a pas de répercussion en province, sinon qu'il y a quand même, Denis en parlait, puisqu'il disait qu'il y avait beaucoup de croix de feu dans le Sénonais, il y en avait également dans la région d'Auxerre, puisqu'on pense même que Jean Moreau était lui-même croix de feu sa jeunesse. Certains sont allés manifester. Qu'est-ce qui se passait-il ? Il y avait un préfet d'origine corse qui s'appelait Chiappe, qui, sous le gouvernement du président du Conseil, Édouard Daladier, favorisait toutes les demandes de manifestation dans la capitale. Et donc, les ligues ont pris de plus en plus d'assurance, et pour un oui ou pour un non, pour le limogeage justement de Jean Chiappe, ont commencé à faire mine de marcher sur le palais Bourbon en compagnie du colonel de la Roque. À ceci se sont ajoutées d'autres ligues, la Fédération des contribuables, les Camelots du Roi, l'Action française de Maurras, et ça s'est terminé dans la nuit par des affrontements extrêmement violents. On a du mal à croire aujourd'hui qu'il puisse y avoir 17 morts, dont une force de police et 16 manifestants.
Donc ce 6 février 1934, c'est aussi une droite alors antisémite. Il y a un antisémitisme qui est aussi très présent chez certains partis politiques et chez certaines associations d'anciens combattants. Sophie Barry.
Oui, pour revenir là sur le 6 février 34, il y a quand même eu des répercussions indirectes dans notre département. J'ai eu le témoignage de Suzanne Lavra, qui avait 10 ans à l'époque et qui se souvient avoir participé à des manifestations au moment des élections de 36 et d'être passée avec tout le cortège sous les fenêtres enfin dans la rue la place de l'horloge là, et avoir crié sous les fenêtres d'un commerçant qui avait participé qui disait être allé en 34 à Paris en le traitant de fasciste, en faisant des gestes. Donc il y avait quand même ça avait marqué l'opinion publique de Lyon, et beaucoup de femmes et beaucoup d'associations réagissait à ces ligues, et si le Front populaire est né, c'est aussi en réponse à ce mouvement-là.
Est-ce que l'opinion publique est beaucoup plus politisée, plus engagée qu'elle ne l'est aujourd'hui en 2018? Alors, il faut le dire aussi que les femmes n'ont pas le droit de vote, mais les femmes, elles subissent la vie chère, elles travaillent, elles sont parfois mal payées ou sous-payées, très souvent. Est-ce que la vie politique est plus intense dans ces années-là, plus virulente qu'aujourd'hui?
Alors, moi, j'ai envie de répondre oui, déjà parce qu'on l'a déjà dit, il y a une bipolarisation beaucoup plus forte de la vie politique, mais aussi parce que l'opinion n'est pas façonnée par les mêmes médias qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la télévision, les réseaux sociaux façonnent l'opinion, mais chacun peut garder un peu son quant à soi. Autrefois, l'information, elle arrive de deux manières. C'est soit la presse parisienne qui arrive par voie de chemin de fer, soit la presse locale qui est foisonnante. Et si on étudie un tant soit peu, on n'aura certainement pas le temps, l'étendue des titres qui existent dans le département, on est sidéré par le nombre. Chaque petit groupe politique, chaque même parlementaire a son titre.
Flandin, par exemple, a son journal sur le pays à Vallonnais, voilà. D'autres dans le Tonnerrois.
Hamelin là, oui, tout le monde là. Le petit régional qui peut rivaliser jusqu'en 37 avec le Bourguignon, qui est l'ancêtre de Lyon Républicaine, c'est l'organe de Jean-Michel René Tour. Donc on est étonné. Et donc les gens, en fonction, on pourrait presque dire, de leur adhésion à tel ou tel journal, sont déjà marqués. Ensuite, il y a aussi le rôle, tout simplement, il ne faut pas l'oublier, et je termine là-dessus, il y a le rôle des places publiques, des bourses du travail, des foires. L'information circule beaucoup dans le département par une convivialité qui n'est plus du tout celle d'aujourd'hui. Les gens se discutent beaucoup les jours de marché, échangent beaucoup en fonction de ce qu'ils ont lu le jour ou la veille dans la presse. Les choses vont quand même relativement vite, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
Denis Martin.
Oui, on constate dans toutes ces années 30 que les manifestations publiques, notamment, rassemblent des foules énormes. On a du mal à imaginer, il y a une manifestation juste après la victoire du Front populaire dans Lyon, où il y a 15 000 manifestants. Mais 15 000 manifestants, on n'a jamais vu ça dans Lyon. Depuis, ça n'est jamais arrivé. Les plus grosses manifs qu'on a eues dans Lyon, c'était en 1995. On avait à peu près 6 ou 7 000 manifestants. Mais sous le Front populaire, c'était plus du double. Donc on est étonné par le nombre de participants à chaque meeting politique. Quand il y a des campagnes électorales, le marché couvert à Auxerre qui peut tenir 5000 personnes, il est plein. Il est plein. Aujourd'hui, ça pourrait faire rêver bien des hommes politiques d'avoir pour, en pleine campagne municipale, par exemple, avoir 5000 auditeurs qui sont venus écouter les orateurs.
On pourrait presque dire, paradoxalement, que les réseaux sociaux et les moyens modernes ont reclus les gens chez eux, et qu'à l'époque, c'est une société du dehors, de l'extérieur. Les gens vont plus souvent dans la rue, sont plus à échanger qu'aujourd'hui.
À l'occasion du 90e anniversaire du Front populaire, nous vous proposons donc aujourd'hui la rediffusion d'une émission enregistrée courant 2018 avec trois historiens membres de l'association Adiamos 89, Sophie Barré, Denis Martin et Frédéric Gant, membres donc de l'association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux. L'occasion de revenir sur les conséquences et la manière dont les événements de 1936 ont été vécus dans Lyon. On retrouve nos invités juste après la nouvelle virgule musicale que nous vous proposons. Je vous rappelle, c'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, toute l'atmosphère pour voir l'espace. Troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol, j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous revenons en effet en cette fin de matinée sur Radion dans votre émission littéraire sur le 90e anniversaire du Front Populaire avec nos trois invités, Sophie Barré, Denis Martin, Frédéric Gand, historien, membre de l'association Adiamos 89, association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux. Les élections du Front Populaire en mai 1936 ont vu une fois de plus l'affrontement de deux blocs, la droite sur la défensive qui souffrait de la politique déflationniste de Pierre Laval, et puis la gauche au contraire en pleine ascension s'était rassemblée, confortée par des grèves de janvier 1936 et la réunification en mars de la CGT derrière Léon Jouot et Benoît Frachon. Poursuivant sa politique d'ouverture téléguidée de Moscou, Thorez avait même tendu la main aux catholiques et aux anciens combattants ayant adhéré aux Croix de Feu. L'ensemble des forces de gauche, des communistes aux radicaux, recueillit 5 400 000 voix contre 4 200 000 voix à la droite. Cette sensible avance se trouva amplifiée par le double effet du scrutin majoritaire et de la discipline dite républicaine. Le Front populaire eut 380 élus, la droite 220. Sa victoire suscita un immense enthousiasme dans les couches sociales défavorisées qui piaffaient d'impatience dans l'attente des réformes de structure. Mais avant les élections du Front populaire, il y a eu en mai 1935 des élections municipales. Et comme partout en France, Lyon connaît une campagne très politisée qui est une avant-première du Front populaire. Denis Martin.
C'est très politisé et on est en quelque sorte dans une répétition, une avant-première du Front populaire, parce que ces élections municipales arrivent au moment où la gauche a signé un pacte d'union, donc pour préparer le Front populaire. Donc la gauche socialiste, la gauche communiste et même la gauche radicale. Les radicaux se sont résolus devant le danger des ligues et de l'extrême droite, donc pour défendre la République, se sont résolus à faire alliance avec les socialistes et les communistes. Ce qui fait que ces élections municipales prennent un caractère très particulier et la droite est extrêmement inquiète parce qu'elle voit les radicaux s'allier avec le diable et elle a très très peur de perdre ses bastions. Et effectivement, ces élections municipales préparent bien le Front populaire puisque dans de nombreuses villes, y compris dans Lyon, la gauche remporte les élections municipales.
Alors il y a des gens qui sont réélus, par exemple à Avallon, Georges Chivert est réélu, mais ça c'est une terre, pareil, de droite et catholique. Pour la gauche, c'est une terre de mission, le pays avallonnais.
Ah, c'est très difficile pour la gauche de venir s'implanter à Avallon. Effectivement, Chivert est réélu très confortablement. On observe toujours une pour vos auditeurs de l'Avallonnais. Il faut quand même qu'ils le sachent. La terre d'Avallon, ça a toujours été, mais depuis la Révolution française, on est sur une terre très catholique, sur une terre très conservatrice. Et effectivement, les élus reflètent tout à fait ces opinions. Donc là, Chivert, à Avallon, est réélu très confortablement. C'est un homme de droite qui donne satisfaction à la population.
Alors bon, à Tonnerre, c'est Maurice Cerceau qui est élu. Alors contre Perrault Pradier. Alors Perrault Pradier, là aussi, lui, il deviendra député. À Tonnerre, c'est plutôt la droite qui domine.
Alors à Tonnerre, il y a une vraie lutte politique. Il y a même un journal qui dit à Tonnerre, c'est les rouges contre les blancs. C'est un peu vrai. On a effectivement Perrault Pradier qui n'est pas seulement député, il a même été secrétaire d'État puisque Flandin d'Avallon l'avait pris dans son ministère comme secrétaire d'État. Donc il a été secrétaire d'État, il représente la droite modérée de l'Alliance démocratique, et puis contre lui il y a une gauche qui est assez virulente sur Tonnerre, et donc le maire Cerceau qui est lui républicain socialiste, donc une gauche aussi relativement modérée, un peu atypique, c'est quelqu'un de gauche mais qui va à la messe, donc qui a une famille nombreuse, il a de nombreux enfants, donc il est un petit peu atypique mais résolument à gauche, et il gagne les élections après un combat assez acharné contre Perrault Pradier.
Du côté de Migennes, alors c'est un instituteur SFIO qui est élu dans cette cité rouge de Migennes. C'est une ville bien particulière tout de même dans le
Alors c'était une cité rouge, enfin qui était plutôt devenue rose dans les années 30, avec un maire socialiste relativement modéré, qui avait démissionné suite aux élections cantonales qui avaient mal tourné pour lui. Et du coup, la droite avait pris le pouvoir à Migennes. Et les élections de 1935 redonnent Migennes à la gauche avec un instituteur, effectivement, socialiste. Et donc, la ville de Migennes redevient rouge.
Alors, intéressons-nous maintenant à Sens. Alors, à Sens, il y a une aventure assez cocasse. C'est le docteur Dupéché qui va être contraint de démissionner pour une histoire de faux témoignages. Enfin, il a caché une amourette secrète. Il a fait croire qu'il a été agressé. Enfin, il y a un micmac incroyable qui va même devenir une affaire presque un peu nationale, dont le canard enchaîné s'emparera, me semble-t-il.
Absolument. À Sens, une affaire qui devient nationale. On a même le colonel de la Roque qui se mouille, qui vient jusqu'à Sens pour soutenir le docteur Dupéché. Effectivement, Dupéché, donc c'est la droite, bien à droite, hein, c'est croix de feu. Hein. Donc Dupéché gagne les élections municipales de Sens à cause de la division de la gauche. Si la gauche n'avait pas été divisée comme elle l'était, elle aurait pu conserver la ville. C'était une ville qui était dirigée par des radicaux, donc relativement bien implantée à gauche. Et là, la division fait basculer la ville à droite. Donc, docteur Dupéché accuse la gauche de l'avoir agressée, de l'avoir battue, tapée, etc. Alors qu'il était en mission pour aller voir une patiente dans la campagne. Et puis qu'on lui aurait épinglé sur son veston sa carte d'appartenance aux Croix de Feu, etc. Donc ça fait toute une enlevée de boutique. Et finalement, au final, on se rend compte qu'il était simplement allé voir sa maîtresse pour rompre avec elle, apparemment, que ça s'était mal terminé avec les membres de la famille de la dame en question, et qu'en fait, tout ça, c'était une pure invention de sa part. Donc, une affaire de mœurs qui devient une affaire politique, qui montre un petit peu quand même le climat de l'époque. Cette anecdote est intéressante pour ça, parce que ça montre jusqu'où peuvent aller les passions politiques, puisqu'on en est à transformer une affaire de mœurs en attentat politique.
Et c'est donc Lazare Bertrand qui va succéder au docteur Dupéché, qui est lui un radical indépendant.
Oui, enfin, il se met une étiquette radicale comme beaucoup de gens de droite de l'époque. On se dit radical pour être élu, puisque les gens de Lyon sont très attachés au radicalisme. Mais en fait, ce monsieur-là, il est de droite. C'est la même coloration politique que Dupéché.
Alors, nous n'avons pas oublié Auxerre. À Auxerre, il va émerger une figure sur le plan municipal qui va rester longtemps en place. C'est Jean-Michel René Tour.
Alors, René Tour, il est déjà maire depuis 1928. Donc là, il est réélu en 1935. Il est réélu haut la main. Très facilement. Alors, René Tour, on a un petit peu de mal à le cerner politiquement. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il est plutôt René Touriste, c'est-à-dire qu'il est ancien socialiste. Il a été à la CFIO un moment, et puis il se donne une étiquette socialiste indépendant. Il est vraiment indépendant. Hein. Il obéit à aucune consigne nationale. Mais là, au moment du Front populaire, il se range résolument du côté du Front populaire et il fait bien son travail politique pour la gauche.
En tout cas, c'est une figure d'intellectuel. Il a commis quelques écrits poétiques. Il a eu une vie très parisienne. Il est homosexuel, apparemment.
Oui, il est homosexuel et c'est connu de toute la population. Et là, on peut voir avec quelle libéralité les Auxerrois l'élisent, malgré ses penchants sexuels qui, à l'époque, étaient extrêmement décriés. Mais ça n'empêche pas son élection. Et puis, il a une espèce d'aura, effectivement. Il a même écrit des scénarios de films qui ont été tournés. Donc, poésie, théâtre, littérature, cinéma. C'est un maire auxerrois très parisien.
Alors, cette année 1935, donc année d'élection municipale, je voudrais juste rappeler au passage que c'est l'année où le service militaire passe à 2 ans en Allemagne, avec un réarmement de l'aviation. À la fin de l'année 35, c'est l'invasion de l'Éthiopie par Mussolini, hein, la fameuse guerre d'Abyssinie. Donc il y a vraiment, on peut dire, les nationalismes, l'hitlérisme et le fascisme menacent de plus en plus. C'est important, je crois, dans le contexte politique. On lutte contre les ligues, on lutte contre la montée du fascisme. Et puis il y a, on parlait de cette vie politique intense, assez virulente, où on exprime ses mécontentements affrontements politiques de manière parfois très, j'allais dire très, très scandaleuse, enfin très, très marquée. Le 9 novembre 1935, Denis Martin, il y a un attentat contre, attentat, je mets le terme entre guillemets, contre l'ancien ministre de l'Intérieur, Eugène Fro, qui vient à Auxerre et qui est accueilli de manière un peu spectaculaire, Denis Martin.
Alors effectivement, il vient pour une grande manifestation du Front Populaire, enfin des forces de gauche, et il se fait attaquer, il arrive à la porte de Paris, à Auxerre, et là, il est attaqué par un royaliste, un capitaine de réserve, qui lui lance un seau de sang à la figure en disant Fro est responsable des morts du 6 février 34. C'était lui qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. C'est lui qui a fait donner la police contre les manifestants et c'est lui qui est responsable des morts. Il est normal que le sang lui retombe sur la gueule. Je cite. On a là aussi un fait divers qui montre la violence quand même de l'époque où un tel attentat aujourd'hui ferait couler mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'encre. À l'époque, ça n'a pas ému plus que ça la presse nationale.
Cette année 1935 donc, voit se constituer un front populaire. Donc Denis, vous l'avez bien dit, c'est le rassemblement des forces alors socialistes, radicales, et faire face à l'extrême droite, à la droite conservatrice, et lutter contre les ligues et les croix de feu qui menacent politiquement le paysage politique français. C'est bien cela, le Front Populaire, pour bien
restituer. Effectivement, le Front Populaire, c'est d'abord ça, parce qu'en fait, quand on regarde le programme du Front Populaire, c'est relativement mince, c'est relativement général. Du pain, la paix, la liberté. Ça reste quand même relativement modeste. Par contre, ce qui fait beaucoup bouger, je pense, les électeurs, les citoyens, c'est plus la crainte de voir la situation politique dégénérer comme en Allemagne, où, n'oublions pas, M. Hitler a pris le pouvoir depuis simplement deux ans, et où on voit ce que peut donner une dictature dans une vieille démocratie.
Vous l'avez précédemment mentionné, Denis Martin, le 14 juillet 1935, il y a eu une grande manifestation antifasciste à Auxerre, c'était au parc de l'Arbre Sec, qui rassemble là des milliers et des milliers de militants pro-Front Populaire.
Oui, en fait, des militants, c'était surtout des gens ordinaires, des citoyens.
Et des citoyennes.
Et des citoyennes.
Car il y a des femmes dans ces
rassemblements. Voilà, alors ça, c'était assez nouveau. Les journalistes des journaux locaux le notent, ils disent, ils sont très étonnés. Il y avait même des femmes dans la manifestation, alors qu'apparemment, ce n'était pas tellement l'habitude jusqu'à présent.
Enfin, il y avait une trentaine de comités locaux du Front Populaire dans Lyon dès l'année 35.
Alors, dès l'année 35, effectivement, les partis politiques s'évertuent à créer dans chaque canton, au moins, un comité local du Front Populaire pour préparer les élections de 36.
Alors ces élections de 1936, ce sont des élections législatives. Il y a pour le département de Lyon, il s'agit d'élire 5 députés, hein, je ne dis pas de sottises,
oui.
5 députés, alors qu'aujourd'hui on en a 3, hein, à l'heure actuelle c'est 3 députés pour le département de Lyon, et à l'époque c'est 5, avec des découpages un peu spécifiques. Cette année d'élection législative, Sophie, l'année 36, l'été 36, torride politiquement, et là on peut dire qu'il y a beaucoup d'affrontements, et pas qu'idéologiques. Alors avant les élections législatives de 36, chaque parti politique s'organise à gauche et constitue un front, c'est-à-dire une alliance, des alliances politiques, radicaux, socialistes et communistes, avec un objectif clairement défini, Frédéric Gand, il s'agit de barrer la route au fascisme et aux ligues, de défendre la République et les libertés.
Oui, absolument. On peut même dire, d'une certaine façon, que les élections municipales constituent la répétition générale de l'année 36 en termes d'élections législatives. Alors, il faut peut-être faire un petit retour en arrière pour éclairer nos auditeurs, puisque nous avons parlé un petit peu de nombreux événements au niveau local, quelquefois national et un peu moins européen. En fait, il y a trois courbes qui se croisent en 1930, au début des années 30, et sur lesquelles il faut revenir pour bien comprendre. La première, on l'a déjà évoquée, je n'y reviens pas, c'est l'échec des politiques publiques que tous les gouvernements, y compris celui de la France et notamment de Laval, mènent contre la crise et le marasme. Ils n'y arrivent pas, donc cela exaspère les gens, et comme on le voit maintenant, c'est pas pour rien qu'on compare les années 30 et notre situation d'aujourd'hui, les gens cherchent des solutions, pensent que les hommes politiques sont totalement incapables, d'où ces phénomènes de protectionnisme, de repli, de xénophobie, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que parallèlement, c'est la deuxième courbe qui monte, c'est la montée du fascisme. Effectivement, le 30 janvier 33, Adolf Hitler, on vient d'en parler, est nommé par le président Hindenburg en Allemagne, chancelier, alors qu'il vient à la tête de son parti Parti national NSDAP, et il vient de remporter les élections. 10 ans après que la marche sur Rome d'octobre 1923 ait porté Mussolini au pouvoir. Ce n'est pas rien, le fascisme semble être une solution qui propose plus d'élan vital, plus d'activité économique et qui mène à la guerre. Et qui séduit une partie des Français et des Iconais. Ça, c'est la deuxième courbe. Et il y a une troisième courbe qu'il ne faudrait absolument pas oublier, qui est celle, en quelque sorte, du communisme. On a parlé tout à l'heure, sans trop revenir dessus, de la tactique classe contre classe. De quoi s'agissait-il ? En fait, Moscou et Staline interdisaient à tout parti communiste, quel qu'il soit, y compris français, de s'allier avec les socialistes, qui étaient accusés d'être des social-traîtres. Ce qui veut dire que les communistes se sont battus contre les socialistes lors des campagnes électorales, à commencer par les élections de 1932 et 1933, qui ont porté Hitler au pouvoir. Ce qui veut dire que cette tactique de classe contre classe va être abandonnée par Staline pour pouvoir lutter contre le fascisme. Il y avait une forme de responsabilité. Et à partir du moment où on abandonne cela, on va voir apparaître à l'échelle européenne, et y compris en France, un organisme qu'on va appeler l'organisme du nom des conférences qui s'étaient faites, les comités Amsterdam-Pleyel. Parce qu'il y aura une première réunion de tous les communistes à Amsterdam, puis ensuite une deuxième qui aura lieu à la salle Pleyel à Paris. Et donc ces comités Amsterdam-Pleyel, hein, dirigés essentiellement par des communistes, et notamment par Louis Aubry, qui était un instituteur communiste en retraite dans Lyon, vont avoir une très grande importance. Ça, il faut vraiment le souligner. Il va y avoir plus de 1000 militants qui vont en faire partie. Il va y avoir une déclinaison très importante dans Lyon. Et après, le 6 février 34, on va voir une manifestation le 12 à Paris avec son pendant local dans Lyon. Des milliers de militants qui vont manifester. C'est très important. Et quand en 1935, puis en 36 où on arrive, va se créer le comité de rassemblement populaire, c'est-à-dire le comité de front populaire qui va rallier ces trois partis, une partie de ces militants était déjà mobilisée. Là, ça va être un socialiste qui s'appelle Jules Pourin qui va en prendre la tête. Donc en fait, le front populaire, il faut le voir dans ce contexte très général et en même temps extrêmement local, ce qui fait que lorsqu'on va voir les élections de 36 se profiler, se préparer, eh bien, du côté de la gauche, du fait de l'abandon de cette tactique classe contre classe et de tout ce que je viens de dire, la gauche est prête, en quelque sorte. Elle est préparée à l'action, elle a des comités locaux et des comités locaux aussi de rassemblement populaire qui ne sont pas exactement, on n'a sûrement pas le temps de développer, mais qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux des comités Amsterdam-Pleyel.
L'importance pour radicaux socialistes et communistes donc, qui s'engagent pour faire front, un front populaire contre le fascisme, c'est de défendre pain, paix et liberté. C'est un petit peu le triptyque qui est avancé. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de meetings électoraux. Hein, Sophie Barré, les femmes sont présentes. Les femmes ne votent pas. Hein, il faut le rappeler, les femmes n'ont pas le droit de vote, mais les femmes s'investissent dans l'action politique publique.
Oui, les femmes sont très impliquées. Elles ont aussi, elles s'organisent aussi. Elles ont créé des comités, le comité mondial des femmes pour la paix et contre le fascisme. Donc elles se réunissent aussi, que ça soit dans les villes, dans les villages. Et ce sont des comités de femmes qui agissent. Il y en a 43 dans Lyon. Elles ont participé aux manifestations au moment de l'élection du Front populaire. Elles sont très actives. elles font beaucoup de choses et toujours là, encore une fois, ça s'est mis en place pour comment répondre à l'installation des mouvements fascistes. Hein, c'est ce qui les a fédérées. Dans Lyon, elles sont dirigées par Hélène Berthaud. Et elles font différentes choses. Ça peut, elles ont aussi beaucoup participé au moment de la guerre d'Espagne. Elles ont aidé des réfugiés ou des combattants espagnols. Donc ça pouvait être soit en faisant des tricots, soit elles s'occupaient beaucoup aussi des activités culturelles. Donc elles ont une activité importante à ce moment-là. Et aussi, c'est aussi dans ces comités qu'elles réclament le droit de vote, qu'elle demande à pouvoir participer aussi à la vie civique.
À Auxerre, Sophie Barré, il y a cet auxerrois ébéniste qui s'appelle Maréchal et qui accepte d'être le candidat des femmes, enfin de suffragettes auxerroises. Denis Martin, d'origine sociale plutôt bon teint, bonne bourgeoisie.
Oui,
pas des petites ouvrières de chez Guillier.
C'est vrai que la revendication du vote des femmes est portée d'abord et avant tout par des couches sociales, disons, de la moyenne bourgeoisie, des institutrices ou bien des femmes qui sont engagées par ailleurs dans les comités de la Croix-Rouge ou des organismes comme ça et qui portent haut et fort la revendication « les femmes doivent voter ».
Et ce qui est surprenant, c'est... Oui, Frédéric.
J'ai ici l'extrait du Bourguignon dans son édition du 16 avril 1936. Voilà ce que dit Maréchal. Je cite « Ma candidature n'est simplement qu'une manifestation symbolique. J'ai été sollicité par un groupe de dames pour porter leur nom, car la loi n'autorise pas les femmes à faire acte de candidature officielle. Elles réclament avec insistance un peu partout en France le droit de vote. »
Oui, ça leur permettait comme ça de pouvoir afficher leurs revendications sur les panneaux électoraux. Faut savoir qu'il y a certaines femmes qui se sont présentées alors qu'elles n'avaient pas le droit de vote. Par exemple, Geneviève Sansois s'est présentée aux élections cantonales. Elle participait aussi ailleurs en France aussi aux élections municipales. Alors à chaque fois, évidemment, c'était invalidé, mais c'était symbolique. Elles étaient là, elles étaient présentes. Et dans certains conseils municipaux, en particulier, vous avez parlé de Migennes tout à l'heure, il y a des femmes qui siègent au conseil municipal, alors qu'elles n'ont pas le droit de vote encore.
Alors que finalement, les hommes politiques, y compris les iconés, ne sont pas du tout opposés au droit de vote des femmes. Le blocage, il vient de, je dirais, du Sénat.
Oui, je ne sais pas si on peut dire que dans Lyon, tous les hommes politiques sont pour le droit de vote des femmes. Je pense que les radicaux, notamment les radicaux de Lyon, sont sur la même ligne politique que leurs collègues qui siègent au Palais Bourbon. Et là, on a, depuis des décennies, un blocage. Chaque fois que la Chambre des députés vote une loi pour le droit de vote des femmes, ça a été fait plusieurs fois, c'est retoqué au Sénat. Et ce sont les radicaux, pour des raisons X ou Y, mais enfin, d'une part, parce qu'ils pensent que les femmes sont trop influencées par le clergé et qu'elles voteraient plutôt à droite et que ça ferait perdre des positions aux radicaux. Et donc, c'est sur cet argument-là que les radicaux refusent aux femmes le droit de vote. Moi, je pense qu'il y a surtout beaucoup de machisme dans, dans cette position et qu'on est plus là dans une tradition traditionnelle.
Oui, je suis d'accord. Il y a à la fois cette position, on va dire, phallocratique et machiste, et puis peut-être tout simplement que le Sénat est quand même composé par des gens très âgés, puisqu'on a vu que Bienvenue Martin est quand même un octogénaire, et on ne peut pas demander à des gens sans femmes et tellement âgés d'avoir des conceptions très novatrices.
Oui, puis les femmes n'étaient pas toutes revendicatrices non plus de ce droit. Et c'était Louise Vess hein, qui dit qu'en fait les femmes du département, enfin de qu'elle croisait, n'étaient pas, c'était pas leur priorité principale en fait.
Je remercie les trois historiens membres de l'association Adi Amos 89, Sophie Barré, Denis Martin et Frédéric Gant pour leur intervention dans cette émission que nous rediffusons et qui avait été proposée une première fois sur l'antenne de Radion courant 2018. Je rappelle qu'en novembre 2016, Adi Amos 89, l'association pour la documentation, l'information et l'archivage des mouvements sociaux, avait organisé à Auxerre un colloque sur le Front populaire dans Lyon. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, 13 juin, toujours à 11h sur Radion pour la deuxième et dernière partie sur ce Front populaire dans Lyon. En attendant, il ne me reste plus qu'à saluer nos invités, d'une part, d'autre part à vous saluer, vous, fidèles auditeurs de cette émission littéraire qui existe sur l'antenne de votre radio locale depuis plus de 15 ans. Si vous avez manqué une partie de cette émission, vous la retrouvez en podcast via internet sur yannickpetit.fr. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain pour la deuxième partie de cette émission entièrement consacrée aux conséquences et aux événements de 1936 dans le département de Lyon. Au revoir et à la semaine prochaine.